Nous allons commencer une étude sur trois ou quatre fois d'un livre qui est comme un rayon de soleil parmi les livres bibliques. Une étoile qui surgit dans un ciel tout noir, une aube qui se lève, un encouragement. Dans la parole de Dieu, dans la Bible et dans l'histoire du monde, il y a tant de périodes difficiles, de peuples qui s'éloignent de Dieu, mais le Dieu de grâce a toujours une solution pour tout problème. Il a toujours une lumière pour chaque ténèbre, un encouragement dans les temps creux et difficiles. Et j'espère que ce soir, vous allez pouvoir être rejoints. Je le crois et je le proclame vraiment ce soir. J'aimerais vous inviter à ouvrir avec moi le livre de Ruth. Nous allons lire donc le chapitre 1 du livre de Ruth. Et nous allons lire le texte du chapitre en entier. J'espère que vous avez apporté votre Bible. Sinon, écoutez bien ou prenez des notes. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Naomi ou Noémie, et le nom de ses deux fils Malchon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Élimélec, mari de Noémie, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malchon et Kilion moururent eux aussi, tous deux, et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait, ses deux belles-filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Noémie dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune dans la maison de sa mère, que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les embrassa. Elles se mirent à sangloter et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit même j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Elles sanglantèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit alors, « Voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Ruth dit, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu est mon Dieu. » Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Elles marchèrent tous deux ensemble jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet et les femmes dirent, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendue amère. Comblée, j'étais partie. Vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? L'Éternel a témoigné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. » Ainsi revint Noémie avec sa belle-fille Ruth, la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Nous avons deux livres dans l'Ancien Testament qui portent le nom d'une femme. Le livre de Ruth et le livre de Esther. Ruth est païenne, c'est-à-dire non-juive, et elle va être transplantée dans un univers juif. Esther est juive et elle est transplantée dans un univers païen. Et dans toutes les deux situations, dans les deux livres, vous avez une histoire de salut au niveau national grâce à ces deux femmes. Et toutes deux sont devenues des instruments de salut par la main de Dieu. Car déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur veut associer, rejoindre et mettre ensemble juifs et païens. Et nous savons qu'en Jésus-Christ, juifs et non-juifs sont devenus un à cause de la croix, Éphésiens chapitre 2. Déjà, nous avons un petit aperçu ici. Les personnages que nous allons voir, les lieux que nous allons étudier et les actions qui vont suivre sont très riches en enseignements et ont une signification particulière. Au travers de ces quatre pages, parce qu'il n'y a pas plus que quatre pages, quatre chapitres, nous allons trouver ce souffle frais de pureté, d'amour, de cette douceur, de cette espérance, cette lumière qui tranche tellement avec la période qui précède, à savoir les juges. Un livre qui ouvre une fenêtre sur l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la direction divine et le plan de salut pour juifs et non-juifs. Et vous savez que les juifs aiment lire ce livre chaque année à la fête de Pentecôte. Ils ne lisent pas les actes comme nous, ils ne lisent pas acte 2, mais ils lisent le livre de Ruth, car la Pentecôte, c'est la moisson des orges. Le contexte du livre de Ruth, c'est donc la période des juges. Vous connaissez les cinq premiers livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, qui sont la base, le fondement, la Torah, hein, la base pour la foi juive. Et ensuite, il y a la conquête du pays, qui est le livre de Josué. Et une fois que Israël s'est établi en terre promise, il y a une période où Dieu voulait vraiment lui-même diriger son peuple et être en quelque sorte le roi qui allait souverainement au travers d'hommes de Dieu diriger son peuple, et ces hommes de Dieu sont les juges. Mais nous avons un petit refrain dans le livre des juges qui dit ceci: dans ce temps-là, il n'y avait pas de roi, mais chacun faisait ce que bon lui semblait. Ah, ça c'est tout différent. Je ne sais pas, est-ce que vous voudriez habiter un pays où chacun fait ce que bon lui semble? Stéphanie dit non. Les autres sont un peu plus en train de réfléchir. Un pays où tout le monde fait ce que bon lui semble, ça s'appelle, ou ça va devenir tôt ou tard une anarchie. Et je pense que notre sécurité serait même compromise aussi. Et dans ce livre des juges, nous voyons d'une manière répétitive l'ennemi agressait le peuple de Dieu, lui volait du territoire, lui volait des victoires les unes les autres. Et ses ennemis s'appellent les Philistins. Ils rentrent sans arrêt sur cette terre d'Israël pour brûler les récoltes, pour leur amener cette famine, pour amener ces défaites continuellement. Et à cause de ce désordre, de ce manque d'autorité et de cette gestion chaotique du pays, eh bien, le livre des juges est vraiment une période sombre en Israël. Dans le livre des juges, nous voyons plusieurs famines arriver, et le livre de Ruth commence en disant que du temps des juges, il y eut une famine. Bien sûr que les famines ont toujours existé, mais pour le peuple de Dieu, pour le peuple de l'Alliance, et je souligne le mot Alliance, le peuple de l'Alliance, la famine n'était pas prévue dans son plan. Au contraire, Dieu avait dit « si vous obéissez à mes lois, vous aurez la bénédiction ». Le sol rapportera beaucoup, le ciel sera un ciel où vous pourrez récolter, il y aura de la pluie, il y aura ce qu'il faut. Mais si vous n'obéissez pas, si vous trahissez, si vous abandonnez l'alliance, alors, vous lirez dans Deutéronome 28 tout un texte, il dira par exemple, alors le ciel sera d'airain, la terre sous toi sera du fer, l'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Donc les famines pour le peuple de Dieu, ne sont pas normales. Ce sont des temps où Dieu veut dire quelque chose. Hé là, vous avez arrêté, vous avez abandonné, vous avez oublié quelque chose d'important. Vous n'avez pas pris soin de l'alliance. Mes amis, l'alliance est le thème qui traverse toute la Bible. L'alliance, c'est un attachement et un engagement inconditionnel avec une autre personne. En s'attachant à Dieu de manière inconditionnelle et en signant cet attachement au travers des eaux du baptême, nous vivons l'alliance et nous sommes dans un contrat. Nous sommes dans l'alliance que nous devons renouveler, maintenir, que nous devons embellir, dans laquelle nous devons croître, découvrir, grandir, parce que Dieu nous a prévu pour le jour de la grande alliance qui s'appelle les noces de l'agneau. Donc une alliance abandonnée apporte un problème. Une alliance négligée, aussi pour un couple, enlève le bonheur, enlève la joie, enlève la force. Donc, le livre de Ruth commence par cette famine. Et le peuple d'Israël savait, il connaissait la loi de Moïse, il savait que la famine n'était pas quelque chose de neutre et juste une circonstance climatique un peu spéciale. Ensuite, il nous est dit que cet homme, Élimélec, qui habitait à Bethléem, est parti pour s'installer dans le pays d'à côté, Moab. Si on voit ça comme cela, ça s'appelle juste un déménagement. c'est juste faire ses bagages et déménager ailleurs. Mais dans l'histoire qui nous concerne, nous allons voir que ce n'est pas du tout le même écho, la même chose pour cet homme Élimélec. Car son nom Élimélec, est-ce que sans avoir fait des grandes études en hébreu, vous pouvez déjà discerner ce que cela veut dire? Éli, c'est Dieu, Mélec, c'est roi. Le nom de cet homme, le mari de Naomi, s'appelle l'Éternel est roi. C'est un nom prophétique, c'est un nom puissant. Il y a comme une contradiction dans le fait que cet homme qui s'appelle l'Éternel est roi, il quitte Bethléem, qui veut dire la maison du pain, où il y a de la nourriture. Il quitte la maison du pain pour s'en aller dans un pays où Dieu avait justement dit qu'il ne fallait pas aller. Les Moabites n'étaient pas un peuple avec lequel il fallait avoir affaire. Alors, si on ajoute maintenant les autres noms, Élimélec veut dire l'Éternel est roi, Naomi veut dire grâce, c'est un très joli nom, grâce. Ils vivent à Bethléem qui veut dire la maison du pain, à Ephrata qui veut dire fécondité, plein de fruits. Et les deux garçons, Malcon et Kilion, veulent dire malades et languissants. Probablement qu'ils avaient un problème déjà, ils étaient fragiles à la naissance peut-être, ou ils ont souvent été malades. Et ensemble donc, ils partent à Moab. On pourrait formuler les versets 1 à 3 de cette manière-là. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner à Moab. Son nom était Élimélec, sa femme Noémie, et les deux fils Malcon et Kilion. Alors on peut traduire comme ça. Un homme quitta avec sa femme et ses deux fils la maison du pain et de la louange, parce que Judas veut dire louange, le lieu de la fécondité, pour séjourner dans la campagne de Moab, cité interdite. L'Éternel est roi mourut et grâce resta avec malade et languissant. Ça, c'est la traduction littérale de ce déménagement. Quitter Bethléem, quitter le lieu de la fécondité, quitter le lieu du Seigneur, la maison du pain, même dans des circonstances difficiles, était-ce un bon choix ou un mauvais choix? Peut-être qu'il aurait pu dire, mais il faut quitter. Il n'y a plus rien à manger, il faut que j'amène ma famille en sécurité. Donc c'est en tant que bon père et en tant que bon mari que je déménage ainsi. Ensuite, deuxièmement, d'autres avant moi avaient fait la même chose. Souvenez-vous, Abraham, dans un temps de famine, avait aussi quitté la terre promise pour aller résider en Égypte. Et puis ensuite, son fils va faire pareil. Isaac va quitter lors d'une famine et lui va partir chez les Philistins. Donc si ces grands patriarches l'ont fait, je peux bien le faire aussi. Mais il est clair aussi qu'Abraham et surtout Isaac n'avaient pas fait juste. D'autres problèmes se sont ajoutés. Lisez dans Genèse chapitre 12. Et puis c'était le chemin le plus facile parce qu'ils se sont dit, mais on va juste provisoirement aller de l'autre côté de la frontière, là où il y a à manger, et puis on reviendra. Mais il est difficile de rester en place dans la famine. Vous savez, souvent, lorsque nous sommes dans une situation de crise, dans une situation de pression, nous avons une tendance, c'est de prendre les choses en main nous-mêmes, n'est-ce pas vrai? Nous voulons trouver des solutions, et les hommes, nous sommes comme ça. Nous, il faut qu'on trouve des solutions. Parfois, les femmes sont là pour nous dire, mais attends, le Seigneur va agir. Mais nous, il faut qu'on trouve des solutions. Et dans le one-man show de ce fameux film « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus », il raconte que l'homme est différent de la femme dans le sens que l'homme, quand il a un problème, il s'en va dans une caverne et il faut le laisser tranquille dans sa caverne. Et il est en train de ruminer seul dans sa caverne jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Il ne faut pas le déranger. Puis la femme, quand elle a un problème, elle n'a pas de caverne. Elle a son téléphone et elle téléphone à ses amis pour raconter, pour parler, pour trouver des femmes qui pleurent avec elle, qui la consolent et qui la comprennent. Ceci dit, nous avons cette tendance à nous débrouiller nous-mêmes. Élimélec avait cette tendance-là, alors qu'il aurait dû rester dans le pays de la promesse, malgré la famine, il aurait dû persévérer et chercher la voie de Dieu. Car Élimélec, qui veut dire l'Éternel est roi, aurait dû faire fonction de juge, parce qu'il y a eu des périodes où il n'y avait plus de juge du tout. C'était des références spirituelles. Les gens de la famine auraient dû dire, mais le juge, où est-ce qu'il habite? Il faut qu'on aille le trouver, consulte Dieu, dis-nous ce que Dieu veut dire. Et le juge était, l'enseignant était vraiment l'homme de Dieu qui devait ramener le peuple dans les voies de Dieu. Élimélec, avec le nom qu'il porte, aurait au moins pour sa famille dû être un juge, un homme de Dieu, un homme spirituel, qui aurait dû chercher la face de Dieu, ramener une lecture biblique à la maison. Dans cette famine, il aurait pu dire, mais les amis, Allez me chercher les rouleaux de la loi, il faut que je les relise encore une fois. Dieu veut nous dire quelque chose dans cette famine. Peut-être que nous avons négligé, oublié quelque chose. Et peut-être qu'en lisant ces textes bibliques de la loi de Moïse, il aurait trouvé les bénédictions et les malédictions de Deutéronome 28. Et il aurait dû dire, hé, les amis, c'est le moment de se mettre à genoux tous ensemble. C'est le moment de chercher la face de Dieu. Nous avons fait quelque chose de faux. Nous avons oublié, nous avons négligé quelque chose. Nous avons mis Dieu de côté, nous avons négligé notre alliance. Il faut se repentir maintenant, revenir à Dieu. Et peut-être que tout à coup, sa maison aurait été touchée par son message. Et il aurait peut-être pu le dire à son village aussi, à son voisinage et son village. Et Élimélec aurait peut-être pu être un juge à la suite de Jephté, de Samson et même de Samuel. Il était appelé par son nom à être un homme prophétique pour son temps. Au contraire, il ne fait rien de cela et il abandonne. Et il s'en va pour sauver sa peau, sauver sa maison dans le pays de Moab où Israël ne devait pas aller. Nous n'allons pas étudier pourquoi il ne devait pas aller, mais Dieu avait clairement dit, vous n'allez pas aller vers Moab et surtout vous n'allez pas vous marier avec les Moabites, surtout pas. Frères et sœurs, dans les temps de crise, Dieu a un message pour nous. Dans les temps de pression, Dieu veut nous dire quelque chose. Si Dieu vous dit, quitte ta place et va ailleurs, faites-le. Mais si Dieu ne vous dit rien, restez en place. Et quand on est dans une crise personnelle, quand on est dans un désarroi personnel, il est toujours mauvais de prendre des grandes décisions. Faut éviter. Restez en place. Restez calme. Dans le calme et la confiance sera votre force. Le Seigneur viendra avec sa douce voix vous parler, vous rassurer, vous donner des forces intérieures pour voir ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas de réponse commune pour tous. Chacun va recevoir une parole de Dieu. Et je dirais, la plus grande famine, c'est quand Dieu ne parle plus. Il faut que Dieu nous parle. On a besoin de la parole de Dieu. C'est une expérience qu'une famille a vécue. Une maman ne savait plus comment faire pour la désobéissance de son garçon, qui désobéissant constamment, et dit, maintenant, si tu n'obéis pas, maman ne te parlera plus. Alors le garçon continue à faire son numéro et à désobéir. Et puis la maman l'a ignoré sans lui parler pendant tout un temps. Alors le garçon commençait à provoquer sa mère et commençait à lui parler. Elle ne répondait rien. Et à un moment donné, le garçon a été totalement déstabilisé. Il ne supportait plus de ne plus entendre sa mère lui parler. C'était insupportable d'avoir maman qui l'ignorait complètement. Et au bout de quelques temps, il a craqué, il a demandé pardon. Il faut que le silence de Dieu soit insupportable pour nous. Il faut que nous entendions sa voix régulièrement. Il faut que nous sentions sa présence régulièrement. Mes amis, nous ne sommes pas faits pour vivre dans le désert en permanence. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans la famine spirituelle, non. Dieu veut nous donner, veut nous nourrir dans toutes circonstances de quelque chose. Si vous vivez un temps difficile, demain matin ou même ce soir, vous allez vous isoler avec Dieu, vous allez prendre votre Bible et vous allez vous lever un quart d'heure plus tôt et vous allez demander que le Seigneur vous donne une parole et vous allez partir avec quelque chose, j'en suis certain. Vous allez prendre une parole et vous allez partir dans la journée avec, vous aurez des forces nouvelles. Confrontez votre journée. Le Seigneur est un Seigneur qui parle. Nous avons un Dieu qui parle, qui a un message pour nous. Ne faisons pas comme Élimélec qui portait un nom si merveilleux. L'Éternel est mon roi et qui quitte sa place et qui emmène tout le monde dans un chemin que Dieu avait défendu de prendre. Il aurait dû dire, c'est vrai, c'est l'heure de la repentance. La famine, c'est un signe de Dieu. C'est le temps de s'humilier et de revenir à lui. Alors, nous avons dit qu'ils sont donc partis. Et le provisoire, c'est-à-dire rester juste là le temps qu'il fallait, est devenu un temps bien prolongé. Il nous est dit qu'une dizaine d'années se sont passées, voire plus. Ils se sont fixés, les fils étant loin du pays promis, loin de la protection fraternelle. Vous savez que l'Église est une protection. Est-ce que vous êtes convaincus de cela ? C'est un terrain de protection. Donc ils ont quitté la maison du pain, ils ont quitté la protection et ils s'en vont tout seuls dans le pays de Moab. Et comment vivre, comment survivre d'une manière spirituelle dans un environnement si hostile, si occulte et si dur et si oppressant? Moab était connu pour ses idoles, connu pour ses faux dieux et pour ses sacrifices rituels terribles. Comment survivre? Comment être un témoin dans un pays où vous êtes minoritaire complètement? Il faut une grâce de Dieu, mais comme ils étaient faibles, bien ils ont commencé les compromis et ils se sont mariés avec des filles moabites. Trois mauvaises nouvelles vont tomber coup sur coup. D'une manière étrange, Élimélec va mourir et les deux fils, Malkon et Kilion, vont aussi mourir. Et voilà que cette succession de mauvaises nouvelles, de catastrophes, cette succession va laisser trois femmes entre elles complètement isolées dans un terrain étranger. Et c'est là que le livre de Ruth, alors que nous sommes vraiment dans un point très bas, que nous sommes dans un moment triste et très dur, la parole de Dieu va nous montrer la lumière et l'étoile qui monte. Une bonne nouvelle arrive d'une terre lointaine. Verset 6, il nous est dit que Naomi apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple pour lui donner du pain. À Bethléem, le passage difficile est terminé. La famine est terminée, il y a de la nourriture. Et la bonne nouvelle est arrivée jusqu'au pays de Moab. Vous savez, une bonne nouvelle, il n'y a pas besoin de forcément beaucoup de radio, et de téléphone et de communication moderne. Il n'y a pas besoin parce qu'une bonne nouvelle, ça se propage. On ne sait pas comment, mais ça se propage. Quand on a eu notre premier enfant, ou je crois que c'était la première ou la deuxième, je ne sais plus. Mais à un moment donné, je voulais téléphoner à quelqu'un pour annoncer, et c'était à la famille, et le téléphone était occupé, et je me dis, mais bon, je téléphonerai plus tard, et c'était occupé. Et puis là, lorsque je téléphone finalement, ça passe, et j'ai dit, écoute, on a une bonne nouvelle pour vous, mais je sais déjà. Quelqu'un avait déjà pris les devants, on leur avait déjà téléphoné. Une bonne nouvelle va tellement vite que vous n'avez même pas le temps de téléphoner. Elle est déjà partie, elle est déjà arrivée quelque part. La bonne nouvelle, ça se propage. La bonne nouvelle, ça se sait. Quand vous avez une bonne nouvelle dans votre cœur à dire, mes amis, il n'y a pas besoin de faire une étude biblique pour savoir comment faire pour expliquer l'évangile, vous allez l'expliquer de votre cœur, naturellement, spontanément, parce que la bonne nouvelle vous habite. La bonne nouvelle de Bethléem est arrivée aux oreilles de Naomi. Et j'aimerais souligner maintenant un petit mot que j'aimerais vous laisser comme quelque chose d'important. Soulignez-le. Naomi se leva. Imaginez-vous, Naomi qui quitte Bethléem. 10 ans se sont passés, mais 10 ans en avant, elle quitte Bethléem. Est-ce qu'elle a quitté Bethléem de bon cœur? Certainement pas. Elle ne devait pas être très à l'aise de suivre son mari en disant, mais chérie, t'es sûre qu'on fait juste? Elle devait douter. Ensuite, il y a le premier deuil qui font que ses épaules s'affaissent. Le deuil de ses enfants a dû être une tragédie. Comment supporter 3 deuils dans la famille? Comment est-ce qu'une mère peut enterrer son mari puis ses 2 enfants et être debout droite? C'est pas possible. Elle était courbée. Ses cheveux étaient grisonnants. Elle était pleine de rides, c'est certain. D'ailleurs, quand elle revient à Bethléem, on ne la reconnaît plus. Les gens disent, mais attends, c'est Naomi? C'est pas possible, c'est pas elle. Elle a vieilli complètement. Elle avait été courbée. Et la Bible dit qu'elle se leva pour aller dans le sens de la bonne nouvelle, pour accueillir la bonne nouvelle, pour avoir du courage pour revenir là où elle a laissé le Seigneur. Frères et sœurs, même si vous êtes courbés jusque par terre, la bonne nouvelle de l'évangile vous fait vous lever aujourd'hui. Vous pouvez vous lever, cesser de dire « je suis une pauvre victime ». Je ne peux pas me lever, je ne peux pas changer ma vie. C'est toujours été comme ça et ça restera comme ça. Tu peux te lever parce que Naomi s'est levée. Elle s'est redressée, voûtée comme elle était, honteuse comme elle était, défaitiste et affaiblie, déstabilisée comme elle était. Elle s'est levée pour regarder Bethléem et pour aller vers cette direction. Et ce soir, nous allons aussi aller en direction de celui qui est né à Bethléem et qui s'appelle le fils de David et qui est là pour nous accueillir à Bethléem et qui est là à ouvrir ses bras pour nous accueillir ce soir. C'est celui-là que nous adorons. Il nous est dit que elle a pris une décision. Le fils prodigue était aussi, lui, dans cette situation, loin de la maison du père. Il était parmi les cochons, parmi les porcs, et il n'avait plus à manger. Il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Lui aussi s'est levé. Les disciples d'Emmaüs étaient découragés. Ils ne savaient plus comment faire. Ils étaient retournés de Jérusalem à Emmaüs. Et là aussi, lorsqu'ils rencontrent Jésus, ils se sont levés pour repartir dans la bonne direction. Ce soir, Dieu t'invite à te lever pour repartir dans la bonne direction, là où tu as laissé le Seigneur, là où il t'attend. C'est Bethléem, le lieu où il t'attend. Alors, je ne sais pas quelle était la force qui a mis en route Naomi, parce que ses 2 filles se sont mis en route avec elle, ses 2 belles filles se sont mis en route avec elle. Il y a quelque chose d'indescriptible qui a commencé à attirer son cœur. Elle aurait pu se dire, mais c'est tellement loin. J'ai pas le courage. On n'a plus d'argent. On n'a pas d'âne. On n'a pas de chevaux. On n'a rien. J'ai pas de la force. je veux rester ici, je veux mourir ici. Elle aurait pu dire ça, mais quelque chose d'inexplicable a mis un désir en elle de retourner, même si elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle savait ce qu'elle quittait, et elle ne savait pas ce qui l'attendait. Mais faire cette démarche, ça s'appelle la foi. Vous vous levez d'un état que vous connaissez, et vous allez vous en aller vers un état que vous ne connaissez pas encore, et que Dieu dit ce sera meilleur que ce que tu connais maintenant. Ce sera mieux. Ce sera, tu retourneras à la maison du pain. Ici, tu n'as pas ce qu'il te faut, mais là, je te donnerai ce qu'il te faut. Fais-moi confiance. Et vous allez être attiré comme Naomi, attiré vers la présence de Dieu. L'attraction du Saint-Esprit est dans votre cœur. C'est lui qui vous attire. C'est lui qui vous redresse votre tête. C'est lui qui va faire ce que vous ne pouvez pas faire de vous-même. C'est lui qui va le faire. Regardons encore quelque chose. Elle va dire carrément à ses belles filles, restez ici, retournez chez vous. C'est de l'anti-évangélisation, ça. C'est faire le contraire. Dire, mais venez avec moi, on va aller dans le peuple de Dieu. Là, vous allez apprendre à connaître les lois de Dieu. Vous allez pouvoir vous convertir, quitter le dos à vos idoles et revenir vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous allez vous sentir mieux, ça va être mieux. Convertissez-vous, venez avec moi. Au contraire, elle va dire, restez. Vous savez, quand on est tellement faible, à un moment donné, on n'a plus de témoignage du tout, plus rien. Et on a presque honte, parce que peut-être que Naomi disait, mais si j'amène mes belles-filles qui sont de Moab, qu'est-ce qui va se passer avec elles à Bethléem? Comment est-ce qu'elles vont être accueillies là-bas? Et elle va donc faire cette espèce d'évangélisation à l'inverse, au sens contraire, à l'envers, mais en même temps, elle va finalement tester ses belles-filles. Elle va dire, écoutez, restez là. Et puis finalement, alors qu'elles sont attachées, parce que Orpa et Ruth se disent, mais finalement, entre les traditions de mes beaux-parents et les traditions familiales de Moab, où est-ce que j'en suis vraiment? Parce qu'elles étaient au milieu, là. Elles étaient entre le judaïsme et la foi de Moab, les idoles de Moab. Elles étaient à mi-chemin, puis elles étaient mariées à des juifs, puis elles sont veuves. Est-ce qu'elles sont juives? Est-ce qu'elles sont moabites? Elles ne savent plus qui elles sont. Elles ont perdu leur identité. Et ce test est important. Reste là-bas. En définitive, ça veut dire « choisis vraiment ce que tu veux ». Choisis vraiment ce que tu veux. Puis finalement, Orpa va quitter et Naomi va dire, elle est retournée vers les siens et vers ses idoles. Donc c'est un choix religieux, c'est un choix spirituel qu'elle fait. Et là, j'aimerais vraiment qu'on souligne le deuxième mot. Le premier mot que vous avez souligné, c'est se lever. Le deuxième mot, ça veut dire s'attacher. Ruth a dit quelque chose qui a fait craquer sa belle-mère. Et j'aimerais que vous puissiez dire ce soir quelque chose qui va faire craquer le cœur du Seigneur. Et pour vous dire un petit secret personnel, cette phrase-là de Ruth, chapitre 1, verset 16, ma femme l'a écrit dans son alliance. C'est un petit secret entre nous, vous ne lui direz pas, si vous pouvez lui dire. Ruth va dire, là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Elle va s'attacher à la mort et à la vie, à sa belle-mère, dans une alliance incroyable. Alors qu'elle ne sait pas au-devant de quoi elle va, par la foi, elle va s'attacher à une personne qui est brisée, courbée et dont le témoignage est par terre. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, Dieu met à côté de nous des gens. Est-ce que Naomi méritait ça? Moi, je ne sais pas. Mais Dieu savait que Naomi avait besoin de Ruth pour remonter la pente, pour reprendre courage. Et Dieu sait de qui toi tu as besoin. Et il met à côté de vous des gens qui seront comme Ruth, qui vont vous encourager dans la bonne direction, qui vont vous aider et qui vont vraiment être loyales avec vous, qui vont être des amis fidèles, car ce que Ruth veut dire ami. Est-ce que quelqu'un a une Ruth à ses côtés? Ne levez pas la main. Mais moi, je sais une chose, qu'il y a beaucoup de gens seuls à Genève, beaucoup de gens seuls. Et moi, je pense que l'Église peut faire la différence. Peut-être que vous vous dites, mais moi, j'ai pas beaucoup d'amis. À partir de ce soir, devenez l'ami de quelqu'un. N'attendez pas que vous, tout le monde vienne vers vous pour être un ami en disant, Seigneur, pauvre de moi, il n'y a personne qui m'aime, il n'y a personne qui me voit, j'ai pas d'amis. Commencez à devenir ami pour quelqu'un. Il y a des gens seuls, plein autour de vous. Devenez l'ami de quelqu'un. Engagez-vous avec quelqu'un. Faites quelque chose pour quelqu'un. Je pensais qu'on allait dire un petit amen. Je pensais que j'avais bien prêché quand même là. N'attendez pas tout des autres. Commencez à vous engager envers les autres. Ruth va tellement encourager sa belle-mère. Je bénis Dieu pour tous ceux qui m'encouragent. Et je dis, Seigneur, fais de moi quelqu'un qui encourage les autres, vraiment. Dans ma propre vie, vous la connaissez qu'en partie, mais je peux vous dire que l'encouragement, c'est pas ce qui m'a entouré quand j'étais jeune. Tout était dû. Il y avait peu d'encouragement. J'ai dû apprendre à encourager, et puis bien des gens autour de moi m'ont aussi exhorté, m'ont aidé à encourager. Mais vous savez, chacun a besoin d'encouragement. Tout le monde a besoin d'être encouragé. Tout le monde. Et Ruth va être un encouragement permanent pour cette Naomi, pour relever sa vie peu à peu, peu à peu. Et elle est par terre, elle va arriver à Bethléem et elle va dire « Non, ne m'appelez même plus Naomi, appelez-moi Mara » qui veut dire amertume. « Car Dieu est contre moi, tout le monde est contre moi, la vie est contre moi. Je suis complètement fichu, j'y crois plus à rien du tout. » Elle est complètement en bas, elle est par terre. Elle a eu la force pour revenir, mais elle est quand même moralement par terre. Elle croit qu'elle est victime de tout. Elle croit que tout est contre elle. Elle a besoin d'un changement de mentalité. Et tout le livre de Ruth, qui est simple, 4 pages, va être l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, qui va relever cette femme de position horizontale à position verticale. Et elle va devenir l'ancêtre du roi David. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous lever et que nous puissions voir les bénédictions que Dieu met à côté de nous. Les bénédictions des Ruth qui sont là. Peut-être que vous n'avez jamais remarqué qu'il y a une Ruth, qu'il y a quelqu'un qui tient à vous. Il y a des gens qui tiennent à vous. Ne dites pas, moi j'ai personne. Il y a peut-être des gens qui tiennent à vous plus que vous ne pensez. Prenez courage ce soir. Que ce livre vraiment soit une puissante bénédiction pour chacun. Que ce livre soit vraiment un encouragement merveilleux pour chacun d'entre nous.